Le journal vous est présenté par Diane Sprimont.
La procédure de destitution contre Trump en direct à la télé aux États-Unis, c'est le début des premières auditions publiques des témoins. On fait le point avec notre correspondant à Washington. Hong Kong paralysé, écoles, commerces et stations de métro fermées. Les manifestants veulent épuiser les autorités. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après la plainte contre Pierre Joxe, l'ancien ministre, est accusé d'agression et harcèlement sexuel. Près de 900 logements endommagés au Teil après le séisme qui a frappé l'Ardèche. Vous l'entendrez. Le maire lance un appel à l'aide. Donald Trump doit-il être destitué? Eh bien, pour le déterminer, des auditions publiques et sans doute historiques ont commencé aujourd'hui au Congrès. Des auditions retransmises en direct sur toutes les télés américaines. Et pour l'instant, ce qu'on retient, c'est le témoignage qui renforce les accusations contre Donald Trump. C'est celui de Bill Taylor, un diplomate de l'ambassade américaine à Kiev en Ukraine. Loïc Loury, vous êtes en direct de Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
En ce moment, ce sont les Républicains qui posent les questions, c'est ça ?
Oui, les Républicains, après des semaines d'audition à huis clos, peuvent enfin poser des questions, même si leur objectif, Diane, n'est pas tant d'en savoir plus sur cette affaire dite ukrainienne que de torpiller les démocrates et leur procédure d'impeachment. Alors pour cela, ils procèdent de plusieurs façons. La première, c'est de viser en quelque sorte les méthodes de leurs adversaires. Tout cela ne serait qu'une mascarade, un spectacle, dit l'un d'eux. Une mise en scène après le fiasco de l'enquête russe il y a quelques mois. Cet angle d'attaque, à vrai dire, est assez logique, puisque pour les démocrates, il s'agit bien de frapper l'opinion et pour cela de rendre ces auditions le plus dramatique possible, simplifier en somme le récit pour le rendre accessible aux Américains.
Et l'autre méthode, c'est d'attaquer directement les témoins comme Bill Taylor.
Oui, témoin pourtant très crédible. Diane, il a servi tous les présidents depuis Reagan. Il affirme ne pas être partisan. Il n'en a pas moins été cuisiné par les élus républicains. Son tort, en particulier, serait d'être un témoin de seconde main. Vous savez, on parle d'un coup de fil entre Donald Trump et le président ukrainien. L'été dernier, Donald Trump avait demandé à son homologue d'enquêter sur son rival Joe Biden. Voilà le cœur de l'affaire. Sauf que Bill Taylor n'était pas là. Vous n'avez pas entendu ce coup de fil, lui dit un grand fidèle de Trump, Jim Jordan. Vous ne connaissez pas le président et pourtant vous êtes là à témoigner, je ne peux pas y croire. Fin de citation. Reste qu'on a surtout vu les républicains attaquer la procédure, la crédibilité de ces témoignages plutôt que le fond de l'affaire. Les auditions commencent tout juste, il y en aura 8 la semaine prochaine. Cette défense sera dure à tenir, même si pour les démocrates, c'est l'opinion qui sera au moins aussi dure à retourner.
Merci Loïc Loury en direct de Washington. 26 morts depuis hier matin, c'est le triste bilan du regain de temps entre Gaza et Israël. Les frappes israéliennes sur les positions du groupe armé djihad islamique s'enchaînent. En représailles, 360 roquettes tirées sur Israël où des sirènes d'alerte ont encore retenti ce matin. C'est le chaos depuis 3 jours. À Hong Kong, le gouvernement a donné l'ordre de fermer toutes les écoles demain. La circulation est trop perturbée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, police et manifestants se sont affrontés dans plusieurs quartiers. Des manifestants qui ont opté pour une nouvelle stratégie. Sur place, Florence de Changy.
Le mot d'ordre donné par le mouvement pour la nuit de mercredi, c'était de multiplier les fronts afin de compliquer la tâche à la police. Dans le quartier du principal port de pêche de l'île de Hong Kong, à Aberdeen, quelques centaines de personnes traînent sous la pleine lune dans les rues déjà barricadées et regardent comme un spectacle les manifestants les plus motivés sortir les pavés des trottoirs et les disperser sur les routes. Parmi eux, Jonas, 23 ans.
Vous voyez, pour le moment, ils sont en train de faire des barricades, comme vous voyez à ce carrefour. Mais la police n'est pas loin, donc ils vont apparaître d'une minute à l'autre.
Effectivement, quelques minutes plus tard, une trentaine de policiers anti-émeutes déboulent avec leurs torches thromboscopiques, leurs matraques et tout leur harnachement. Ils commencent à quadriller le quartier, détruisant les barricades de coups de botte sur leur passage. Mais à peine éloignés, les habitants les insultent et remontent les barricades au même endroit. Si Aberdeen est resté calme cette nuit, ce jeu de chat et souris peut vite dégénérer, comme ce fut le cas à San Juan Ho, de même qu'à Mong Kok et à Prince Edward.
Florence de Changi à Hong Kong, un territoire qui traverse depuis maintenant 5 mois sa pire crise politique depuis plus de 20 ans. Evo Morales, lui, veut retourner en Bolivie pour apaiser la situation avec une condition, si mon peuple le demande, a précisé l'ancien président bolivien depuis le Mexique, là où il a obtenu l'asile après avoir été contraint de démissionner en début de semaine. C'est la deuxième vice-présidente du Sénat qui s'est proclamée à la tête du pays. C'est la plus forte marée haute depuis plus de 50 ans à Venise, haute de près d'un mètre 90. La ville est sous les eaux depuis hier. Un Vénitien de 78 ans est mort. Le reportage à Venise de notre envoyé spécial Bruce de Galzin.
La place Saint-Marc a retrouvé sa splendeur, le soleil a même brillé cet après-midi et l'eau s'est évacuée petit à petit. Mais hier soir, Denise était au restaurant avec ses amis lorsque le patron a décidé de les évacuer.
Ils nous ont demandé de partir à 10h du soir parce qu'ils ont dit « ça monte, vous avez déjà de l'eau aux genoux, partez, partez ». Mais effectivement, on avait de l'eau à mi-cuisse. Ben, on comprend enfin qu'est-ce que ça veut dire, Venise commence à s'immerger.
Et cette situation, Clara ne l'accepte pas. Elle a 21 ans, elle étudie à l'université de Venise et a choisi de passer sa journée à ramasser les déchets remontés à la surface en raison de la marée exceptionnelle.
La ville est vraiment tombée à genoux et c'est pour ça que je donne un coup de main, parce que la ville en a bien besoin. L'année dernière, il y a déjà eu un autre record, mais cette année, on est arrivé à seulement 7 cm du record de 1966.
Les commerçants, eux, sont habitués mais supportent mal le fait que rien ne soit fait pour éviter les inondations désormais récurrentes. Les autorités ont tenté de s'en expliquer lors d'une conférence de presse à laquelle a aussi participé le patriarche catholique de Venise, Monseigneur Morelia, et qui lui aussi a demandé de l'argent.
Venise est une ville blessée qui ne peut pas être blessée chaque année de la même manière. C'est une ville unique et elle a besoin d'efforts financiers au niveau national comparé à d'autres villes.
Et le patriarche a annoncé que la basilique avait subi des dommages énormes, peut-être irréversibles, et des dommages encore incalculables selon le maire de la ville.
Et dans les jours à venir, d'autres marées de ce type sont annoncées. Grève générale dans les hôpitaux demain, une journée pour sauver l'hôpital public. Manque d'effectifs, manque de moyens qui entraînent des fermetures de lits, de salles. Pour en parler avec nous ce soir, Frédéric Valtoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France. Alors, est-ce que demain, on peut s'attendre à une mobilisation inédite ?
On verra demain, mais ce qui est certain, c'est qu'on sent effectivement qu'aujourd'hui, c'est tout l'hôpital qui se mobilise. Au printemps, on a parlé des grèves dans les services d'urgence et d'une grogne sociale qui a démarré aux urgences. Nous, on savait bien que ce que disaient les urgentistes, c'est ce que ressentaient les hospitaliers. Et ce que vivaient les urgentistes, c'est tous les étages de l'hôpital qui le vivaient. Ce qu'on sait demain, parce qu'on le voit, on a des échos dans différents hôpitaux, c'est que la mobilisation risque de concerner l'ensemble de la communauté hospitalière, c'est-à-dire médecins, soignants, personnel administratif, et pas tel ou tel service, mais de tous les étages de l'hôpital. Voilà, c'est sans doute ça qu'on pressent. Alors, est-ce qu'elle sera très suivie ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'elle va concerner aujourd'hui tous les étages de l'hôpital, tous les services se sentent concernés par l'expression, je veux dire, d'un ras-le-bol, quoi.
Tous les corps de métier sont invités à se mobiliser. Est-ce que là, c'est parce qu'on arrive vraiment à un point de non-retour ?
Oui, on arrive à un moment où, si vous voulez, il y a l'impression que on a mis l'hôpital dans un entonnoir et que les années passent et on n'en sort pas. Ça fait 15 ans qu'on demande des efforts d'économie aux hospitaliers. Ces 15 dernières années, l'hôpital a économisé 10 milliards d'euros. Alors, il fallait le faire, il fallait se moderniser, il y avait sans doute du gras, etc., etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est plus le sujet. Par ailleurs, la crise réelle de la médecine de ville fait que se reporte sur l'hôpital l'activité. Pourquoi les urgences, la fréquentation aux urgences a explosé ces 10 dernières années? C'est parallèlement la crise de la médecine de ville, que c'est de plus en plus compliqué et que les généralistes qui continuent à travailler, ils sont débordés de boulot et ils n'ont plus la place de prendre de nouveaux patients et que donc les gens vont vers l'hôpital et que donc les dysfonctionnements du système de santé, les tensions financières du système de santé pèsent beaucoup plus à l'hôpital que sur les autres acteurs. Ça, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que on a un gouvernement qui a mis le système de santé dans une dynamique de réforme, mais ça prendra 3, 4, 5 ans pour que les choses se mettent en place. Donc la direction générale, elle est bonne, sauf qu'il y a le quotidien et que on voit que les arbitrages budgétaires qui ont été faits pour 2020, c'est à nouveau de demander encore et encore des économies à l'hôpital. Donc oui, il y a un moment, on est sur un ras-le-bol général, on n'est plus sur une revendication catégorielle, on n'est plus sur une prime, on n'est plus sur une telle ou telle mesure. On est vraiment sur finalement, mais quelle est la place de l'hôpital? Quel est notre rôle à nous, hospitaliers? Quels moyens on nous donne pour continuer à travailler?
Mais concrètement, là aujourd'hui, l'hôpital public a besoin de quoi pour revivre ou survivre?
L'hôpital public, il a besoin d'abord qu'on le finance à sa juste mesure. Or, on est dans un système de sous-financement de l'hôpital depuis des années. Donc, je l'ai dit, c'est les économies qui ont été faites, mais à un moment, on fragilise le soin lui-même, la qualité du soin, on met en péril le fonctionnement des services. On a besoin de rendre les carrières à l'hôpital plus attractives. On a aujourd'hui un système de santé qui est organisé autour d'une offre publique, mais aussi d'une offre privée. On a dans certaines spécialités médicales des différences de traitement, des différences de salaire, on va dire, mais qui vont de 1 à 3 dans une même spécialité. Un radiologue à l'hôpital, qui quand il quitte l'hôpital et qui va s'installer dans la clinique en face, parce que parfois même physiquement la clinique elle est réellement installée en face de l'hôpital, il peut gagner 3 fois plus en ayant traversé. Donc ça peut être tentant de lâcher l'hôpital. Or, aujourd'hui, notre système de santé est sous contrainte. Est-ce qu'on peut s'autoriser d'avoir de tels écarts de traitement sur des spécialités qui sont les mêmes?
Et dans ce contexte, quelles sont les conséquences dans les services? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'atmosphère, les conditions dans lesquelles se déroulent les prises en charge?
L'hôpital fonctionne. Les prises en charge, elles continuent. Il n'y a pas un exemple en France de patients à qui on a dit « Désolé, on peut pas vous en prendre, revenez la semaine prochaine ». Les hospitaliers, même quand ils, aux urgences, ils ont fait grève depuis quelques semaines, dans les services qui étaient en grève, ils ont continué à accueillir les patients, ils ont continué à faire fonctionner les services. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on sait que l'activité augmentant, les tensions sont réelles, les problèmes de pénurie de médecins, mais aussi de pénurie d'infirmières dans certaines spécialités, de pénurie d'aides-soignants dans certains territoires sont réels, et que donc on fonctionne parfois avec, je vais pas dire des bouts de ficelle, mais on fonctionne avec des plannings qui deviennent fous pour des médecins de moins en moins nombreux. Je vais donner un seul exemple. C'est l'exemple qui avait été évoqué il y a quelques semaines de l'hôpital de Mulhouse, où pour faire tourner les urgences, il faut 30 médecins, et aujourd'hui, ils fonctionnent avec une dizaine de médecins. Et donc, ça veut dire que la dizaine de médecins font tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un service d'urgence qui devrait fonctionner avec 3 fois plus de médecins. Donc, vous voyez sans doute la fatigue des médecins en question.
Merci Frédéric Valtoux, vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. Le parquet de Paris ouvre une enquête contre Pierre Joxe, l'ancien ministre socialiste est visé par une plainte pour agression et harcèlement sexuel. Une plainte déposée par une ancienne employée à domicile. Antoine Marette, que sait-on de la plainte contre Pierre Joxe?
Eh bien, selon Le Monde, elle est le fait d'une femme de 40 ans, une employée à domicile haïtienne qui s'occupait de la femme de Pierre Joxe, décédée en janvier dernier. Elle a travaillé au domicile des Joxe entre septembre 2017 et décembre 2018 jusqu'à son licenciement. Elle accuse l'ancien ministre de l'avoir agressée sexuellement en 2018 à plusieurs reprises. Elle aurait déposé une main courante en juillet 2018. Elle a finalement porté plainte hier pour agression et harcèlement sexuel. Ces accusations surviennent à quelques jours d'une audience prévue lundi. Le tribunal de Paris doit se prononcer sur une plainte en diffamation déposée par Pierre Joxe contre Ariane Fornia. En octobre 2017, la jeune femme avait accusé l'ancien ministre de l'Intérieur de l'avoir agressée sexuellement lors d'une représentation à l'Opéra. En mars 2010, elle n'avait pas pour autant porté l'affaire en justice, les faits étant prescrits. Pierre Joxe avait alors dénoncé, je cite, un tissu de contre-vérité. Le Monde a obtenu la réaction de Pierre Joxe après cette nouvelle accusation. L'homme de 84 ans dément une fois de plus. « Je ne me suis jamais livré à ce genre de choses sur personne contre sa volonté », se défend-il, tout en dénonçant une manipulation. Son avocat ajoute « Mon client conteste fermement ces accusations et il apportera la preuve que tout cela est faux. »
Antoine Marette. Le maire d'Utey lance un appel à l'aide. Le séisme qui a frappé l'Ardèche a fait des dégâts dans près d'un quart des habitations de sa commune. Olivier Peverelli demande donc un soutien des maires de France. D'après lui, ce soutien financier est indispensable à la reconstruction d'Utey. Le point sur la météo. Ce soir, les pluies se renforcent sur le nord-ouest. Elles laissent le temps reste sec. Et puis, Météo France a placé 3 départements. Vigilance orange, neige et verglas à partir de demain. Ce sont l'Ain, la Drôme et l'Isère. 22h15 sur France Culture, c'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.